Alors, juste pour compléter la photo, tu as donné donc sur l'islam en France, sinon de France, en tout cas en France, effectivement, l'islam consulaire, il faut peut-être mentionner quand même les frères musulmans qui font
Oui,
partie
alors,
de l'islam consulaire.
oui, c'est vrai que j'ai oublié les.
Au CFCM, les frères musulmans font partie du CFCM, même si c'est bien, c'est pas un nombre considérable de mosquées maintenant, si c'est en perte de vitesse. Et cet islam du CFCM, enfin les fédérations du CFCM, c'est 1100 mosquées à peu près, tu me corrigeras, mais c'est à peu près ça, sur 2008. Donc ça donne une idée, hein. 2800 mosquées, 1100 font partie du CFCM et les autres sont ailleurs, indépendants.
Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que 1100, c'est celles qui ont voté. Il y a une
Ouais.
partie, il y a une partie des mosquées qui peuvent être affiliées aux uns et aux autres, mais qui ne sont pas allées voter parce qu'il faut payer pour voter. Il faut payer sa cotisation. Hein, des grands partis ont connu ça, si j'ose dire. Voilà, l'adhérent ne peut voter au Congrès que s'il paye ses cotisations. Voilà, et donc, sachant que le jeu est un peu biaisé, ils ne payent pas, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas affiliés à telle ou telle obédience. Dans le Conseil français du culte musulman, au départ, il y a toutes les tendances. Alors, bien sûr, on peut dire les frères musulmans, c'est-à-dire musulmans de France, qui a signé la charte. Et dans la charte, il est dit que être frère musulman, ce n'est pas bien. Hein. Donc, moi, je pense qu'ils ne sont pas frères musulmans. Ils sont historiquement marqués par ça, mais en réalité, c'est un courant dont la radicalité est quand même très faible. Hein. Je veux dire, c'est le Parti communiste en 1968. Hein. Je veux dire, ça ne veut pas basculer dans la révolution. Quoi. Je veux dire, enfin, je dis ça pour. Je ne sais pas s'il y a un élu communiste là. Peut-être modifier quand même.
Élu, non, en tout cas.
Non, mais je veux dire par là qu'ils sont du côté de l'ordre. Et c'est pour ça que là, ils sont du côté de la Grande Mosquée de Paris.
Oui.
Hein, ils sont du côté de. Mais dans le Conseil français du culte musulman, on a le Tablir, qui est,
D'accord.
lui, beaucoup plus à la fois radical et toxique sur le plan de la théologie. Hein, c'est la projection vraiment du mouvement qui vient du sous-continent indien. On a toutes les tendances, mais ce qui domine, c'est l'islam maghrébin et l'islam turc, sachant que ce que tu appelles les frères musulmans, ce sont essentiellement des maghrébins, marocains et algériens, qui n'ont pas voulu s'affilier aux autres. Hein, c'est ça. Et qui étaient étudiants, puisque c'est comme ça qu'ils sont nés, ils étaient étudiants au début des années 80, ils considéraient que la Grande Mosquée de Paris, eh ben, c'était un peu plan-plan, ils constituent une association d'étudiants et qui va prospérer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils sont marqués plutôt intellectuellement par la pensée frériste. Voilà, ça c'est clair. Oui.
Ouais. Et donc, à côté de ça, il y a tout un tas de mosquées non affiliées.
Alors, il y a le salafisme qui existe, qui est là, qui est en fait une nébuleuse. Il y a plusieurs façons d'être salafiste, qui est une nébuleuse, mais qui a une importance sociale pour nous, puisque les salafistes, ils sont vraiment dans cette idée de la séparation. Et c'est pour ça qu'ils investissent des petits commerces, parce qu'ils veulent être véritablement indépendants, d'une certaine manière, comme peuvent l'être parfois des courants évangéliques qui vous disent qu'il ne faut pas avoir de lien avec César. Mais c'est une nébuleuse, c'est une nébuleuse qu'on trouve dans les quartiers, mais qui n'est pas organisée en fédération. Mais c'est une prégnance dans les quartiers et qui est extrêmement forte, qu'on peut trouver même dans des mosquées affiliées et qui est composée de personnes qui arrivent à attirer vers elles des personnes en difficulté sociale, jeunes, mais qui peuvent aussi attirer des personnes qui, par exemple, ont des longues périodes de chômage, etc., et qui, du coup, retrouvent à travers la foi le sentiment d'une dignité. Et là, c'est le sentiment d'une dignité à partir d'une foi très, très dure, hein, dans le rapport aux autres.
Oui, et j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une sociologie assez jeune, assez décomplexée, qui assume son identité musulmane, qui est plutôt et qui peut être assez éduquée. qui se retrouvent sur des plateformes type les musulmans, qui correspond bien à finalement la souplesse d'organisation de l'islam, avec des voix qui portent énormément, qui sont ce qu'on appelle les imams YouTube. On en trouve quelques-uns, hein, qui vont faire certains des millions de vues. Et ça prend une importance importante. Enfin, il me semble que ça devient important pour faire
Et
une.
ce qui est important, c'est ce qui est important, enfin, ce qui est important. Le phénomène, c'est l'effondrement des espérances laïques, de l'encadrement traditionnel
Oui.
qui était organisé à partir de ces espérances laïques, c'est-à-dire les courants laïques, la Ligue de l'enseignement, mais aussi le Parti communiste, le Parti socialiste, les organisations syndicales. Donc, il y a quelque chose qui s'est effondré. Le communisme municipal, hein, qui avait cette capacité de mélange et de confrontation au sein de la société, pas à partir du religieux, mais à partir de questions sociales. Bon, et donc, dans ce désert-là qui a fini par constituer, parce que les gens sont partis, parce qu'ils ont vieilli, parce qu'ils sont partis, parce que être militant dans certaines zones, eh bien, c'est devenu, c'est aussi, c'est des choix de vie qui ne sont pas simples. Et en particulier, ce n'est pas simple pour les enfants. Donc, on a des déserts militants. Des déserts militants laïcs qui ont été investis par des gens dont l'espérance est plus forte que l'effondrement des espérances laïques. Voilà, et c'est ça la difficulté, mais c'est la difficulté qu'on a aussi justement par une partie des jeunes ou par les militants du djihad. Hein, c'est très difficile de combattre des gens qui pensent que en accédant à la mort, ils iront directement au paradis. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué à combattre qu'autre chose. Et donc, ces jeunes, comme il n'y a pas autre chose qui s'offre à eux, et que à travers le monde, les identités religieuses sont devenues beaucoup plus fortes que les identités laïques, c'est vrai en Europe, et comme c'est vrai de l'autre côté, enfin, c'est plus vrai encore de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien, ces jeunes. Ils sont polarisés par ça, et parce que dans la recherche que peut avoir un adolescent, eh bien, la chose qui peut arriver à l'attirer, à le structurer, dans mon jeune temps, c'était le trotskisme, là, ça peut être le camp. Sachant que je préfère le trotskisme.
Alors, tu disais qu'il n'existait pas assez d'intellectuels en fait hein, qui tirent
Oui, parce que.
tirent les choses vers l'autre. Juste,
Mais oui,
il y a
oui.
quand même des Tarek Obrou, des Mohamed Bajrati, enfin,
Oui,
il y a quand
voilà, d'accord.
même.
Ça fait 10 ans que tu me redis les mêmes noms. On est bien d'accord. Hein. Et une fois que tu as dit ça, je veux dire, une fois que tu as dit
Oui.
ça, je constate par exemple que le Coran des historiens, hein, c'est un musulman, c'est quelqu'un qui est d'origine chiite qui le fait. Alors, les chiites, c'est 10% peut-être, ou même pas. De l'ensemble des musulmans pratiquants et qu'il n'est pas issu du monde sunnite, et que les meilleurs exégètes du Coran dont on s'arrache les livres, ce sont des dominicains. Hein, c'est les dominicains du Caire, c'est Adrien Kandar, etc. Bon, après, oui, il y a quelques personnalités, mais je constate aussi que ces personnalités, elles se mettent en marge de l'organisation du culte, et que le problème, c'est justement l'articulation entre la masse des fidèles pour arriver à les entraîner et leur pensée. Tarek Obrou est devenu très marginal par rapport à sa mosquée, hein, qui est par ailleurs une mosquée UOIF et qui est restée une mosquée UOIF. Bajrafi, il a même arrêté d'être imam. Hein, il a dit maintenant j'arrête. Voilà. Bon. Et Abdennour Bidar, qui est peut-être le quatrième nom que tu vas me citer, eh bien, sa particularité, c'est qu'on ne le voit pas dans une mosquée. Donc, c'est un problème. Et voilà. Et donc, la difficulté que nous avons, c'est que pour qu'il y ait une évolution du cœur des fidèles, dont on peut dire que globalement ils aspirent à vivre tranquillement leur foi, eh bien, mais qu'elle est extrêmement conservatrice et par rapport à nos critères sociétaux, et par rapport même à l'historicité de nos combats sociétaux, eh bien, il faudrait qu'ils arrivent à leur parler. Et
Ce
pour leur parler, à un moment donné, il faut se mélanger à eux.
qui explique ce que vous dites, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que le culte n'est pas investi par ces élites sociales.
Absolument,
Et du
absolument.
coup, dans les autres confessions, les élites intellectuelles sont des extractions des élites sociales, alors que dans le cas du culte musulman, les élites intellectuelles sont décollées par rapport à ça.
Oui, je veux dire, voilà, c'est, voilà, René Raymond était un grand historien, et en même temps, il se présentait et il allait dans des cercles de pensée catholique, etc., parce que voilà, les choses étaient organisées comme ça. Mais en plus, il y a une tradition intellectuelle qui est très forte dans tous ces courants-là, je dirais le monde juif, le monde protestant, le monde catholique, et que notre problème aussi, c'est la projection de ce qui domine en islam venant des pays musulmans, parce que le débat intellectuel, là où Jacques Berck a fait une erreur, c'est que d'une certaine manière, on est sur le plan intellectuel une sorte de front secondaire. Le front principal, il est de l'autre côté de la Méditerranée. Or, la caractéristique de l'autre côté de la Méditerranée, c'est quoi ? C'est on ne traduit pas. Hein, voilà. La confrontation intellectuelle ne se fait pas parce que ce qui domine, c'est la volonté des pouvoirs politiques de contrôler au maximum les populations. Et elles essayent de le contrôler avec un islam à la fois appauvri et très dur dans ses normes. Et donc ça a des effets, je veux dire, voilà, et bien évidemment, mais après on va dire, ben oui, il y a le frère de Benny Lévy qui s'est converti à l'islam et qui écrit des choses formidables en Égypte. Oui, d'accord, enfin, ça a ses limites. Voilà, on ne peut pas dire, par exemple, que les rares pays où il y avait une dynamique intellectuelle, ben, on voit bien que tout ça s'est un peu effondré. C'était le Liban, par exemple. Il y a eu quelque chose à un moment donné. Hein, mais parce qu'il y avait une confrontation même entre différents cultes. Je veux dire, là, alors…
Il y a eu le Caire. Hein. Au Caire, il y a eu… Une...
Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je citais le Caire.
Au Caire, il y a eu une vie…
C'était le Caire. Mais la difficulté que nous avons, et qui est vraie à la fois pour les processus d'intégration, mais qui est vrai pour l'islam, c'est que l'écart entre les pays d'émigration et d'immigration n'a pas cessé de s'accentuer. Voilà. Et c'est un problème qu'on a dans les dynamiques d'intégration aujourd'hui, et s'accentuer sur le plan sociétal comme sur le plan intellectuel. Et on le voit, l'exemple turc est frappant. C'est frappant. Ou par exemple, on disait par exemple, la Tunisie était un des lieux où on avait encore cette liberté, etc. L'actuel président, par exemple, a fait une sortie d'un antisémitisme virulent, hein, alors qu'on disait, ben voilà, c'était un endroit où il y avait encore une communauté juive, 1500 personnes, etc. Bon. Mais après qu'il l'ait fait, il y a eu une vague qui était sous-jacente, très certainement, de… antisémitisme, et on voit bien là le truc. Alors, la protection du roi du Maroc pour les derniers juifs qui sont là-bas, ça aussi ses limites. Hein.
J'avais une question, monsieur, merci beaucoup, hein, c'était très intéressant. Comment s'organisent nos voisins européens pour structurer des modèles qui ne sont pas les modèles français? Est-ce qu'ils y arrivent ou est-ce qu'ils ont les mêmes difficultés que nous?
Non, ils ont globalement les mêmes difficultés, mais il y a une sorte d'inversion. Quand j'étais chef du bureau central des cultes, j'étais invité c'était en 2004. Hein. J'étais invité en Angleterre à des débats aux Pays-Bas, etc. On disait, mais vous êtes absolument incroyable, d'une dureté insensée, vous empêchez les gens de vivre leur foi correctement, etc. Aujourd'hui, ils sont devenus beaucoup plus durs que nous. Je veux dire. En Autriche, par exemple, c'est très clair. Enfin, un contrôle extrêmement fort sur les imams. En Allemagne, ils ont mis en place des formations de théologie, mais ils sont confrontés à la communauté turque. Et c'est vrai que pour les Allemands, c'est très compliqué leur rapport à la Turquie, parce que la Turquie, c'est quand même un État puissant. Aux Pays-Bas aussi, ils ont mis en place des mécanismes de contrôle qui sont beaucoup plus forts. Les Anglais, par exemple, utilisent très directement, et ils ne leur donnent pas le choix, la structuration de l'équivalent du Conseil français du culte musulman dans les questions de sécurité. Voilà. Nous, on ne fait pas ça. Et enfin, ils ont mis en place des formations théologiques alors avec plus ou moins de succès, mais ils essayent de trouver les ressources pour faire ça. Après, chaque pays a sa propre immigration. Et c'est ça qui est aussi compliqué. Hein. En Allemagne, la majorité de l'immigration n'est pas une immigration du sud du monde. Hein. Même s'il y a beaucoup de Turcs, hein, c'est de l'immigration qui vient des pays de l'Est, etc. Nous, on a cette particularité d'avoir à la fois cette immigration qui vient du sud du monde, mais qui n'est pas non plus l'immigration la plus diplômée, la plus éduquée. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Hein, mais plus de 40% de ceux qui arrivent, et ça, c'est l'OFI qui les accueille, puisque c'est le métier de l'OFI, eh bien, ont un niveau de diplôme qui est au maximum au bac. Hein, ouais. Et ce sont les perdants de ces systèmes. Il y a une partie de l'immigration qui vient ici, ce sont les perdants des systèmes. C'est le perdant des systèmes marocains, c'est le perdant du système algérien, et c'est les perdants des systèmes de l'Afrique de l'Ouest. Sachant que, par exemple, au Maroc aujourd'hui, les enfants des élites marocaines, leur aspiration, ce n'est pas de venir en France, c'est de faire ce que font les enfants des élites françaises. C'est-à-dire, je veux absolument aller à McGill, au Québec, à New York, etc. Ils font ça, voilà. Et en plus, ceux qui sont les perdants de ces systèmes, leur niveau de français a en fait diminué, ce qui n'est pas une aide pour eux pour l'insertion ici, parce qu'à un moment donné, il y a une remise en cause de la formation en français, et qu'en plus, les islamistes en Algérie, islamistes gouvernementaux, hein, mais au Maroc, etc., leur bataille, c'est de dire que les enfants doivent apprendre l'anglais, parce que le français, c'est la langue coloniale. Hein, et donc, ça en rajoute, si vous voulez. Ça en rajoute, parce que ceux qui vont vraiment maîtriser l'anglais, etc., c'est les enfants des élites sociales, et les autres, eh bien, ils auront un français beaucoup plus approximatif, et c'est ce qu'on voit. Ce sont les jeunes malheureux qu'on trouve à Barbès, pour ceux qui sont parisiens et qui vivent de la vente de cigarettes.
Sur l'islam africain en France, il est, enfin, je sais pas, vous en avez parlé, il n'est pas vraiment structuré parce qu'il n'est pas porté par une seule
église, c'est ça ? Alors, il n'est pas vraiment structuré. Il est structuré, mais il est vraiment à l'écart. C'est soit les sociétés, les confréries, qui sont à la fois religieuses et sociales, hein, mais il se tient à l'écart. Il a pas vraiment ses lieux de culte. Et sa structuration de base, c'était les foyers de travailleurs migrants. Hein, et alors, il y a une fédération qui s'appelle la FAYACA, mais qui est une coquille vide. Qui est une coquille vide. Le seul endroit où on a un islam africain qui est structuré, c'est Mayotte, pour nous. Mais Mayotte... Il ne participe pas de la vie nationale. Mayotte, c'est un département français, mais dans lequel il y a une partie de la population qui a gardé le statut personnel musulman. Hein, c'était un des compromis de la départementalisation. Et en plus, on a gardé, pour les petits litiges ou les conflits familiaux, la justice cadiale, hein, c'est-à-dire la justice religieuse de premier niveau, même si après, les personnes peuvent faire appel et donc se réinvestir dans la justice civile traditionnelle. Mais c'est une situation très particulière et qui n'a pas de… Et les musulmans ici n'ont pas de lien avec eux.
D'accord. Très clair, merci beaucoup.
Pas de lien avec eux. L'endroit où on a une situation particulière… Là, intéressante, et justement qui est l'inverse de ce que je dis sur la métropole, c'est la Réunion. Ouais. À la Réunion, le culte musulman est investi par ses élites sociales. Résultat des courses, tous les imams de la Réunion sont inscrits à la caisse des cultes, à la CAVIMAC, puisque très souvent, on entendait les responsables musulmans qui disent qu'il n'y a pas de statut des imams. En réalité, il y a un statut possible, qui est le statut, je dirais, de n'importe quel salarié à partir de sa caisse sociale. Hein, produit de la convention collective, etc. Et donc, tous les imams de La Réunion cotisent à la caisse d'études parce qu'en réalité, il y a un conseil régional du culte musulman qui cotise pour eux comme un patron. Hein, ils ont leur fiche de paye ils cotisent à la Calimac comme salariés, et puis ils ont le CRCM qui cotise. Mais le culte musulman à La Réunion est dominé par ces élites sociales, parce que les musulmans de La Réunion sont issus du sous-continent indien, ils sont des commerçants florissants, etc. Et la grande mosquée de La Réunion est une des plus grandes, des plus anciennes mosquées de France. Et du reste, il y a un phénomène sociologique un peu particulier, c'est que des jeunes, justement, ici, comprennent pas exactement ce que c'est La Réunion, l'islam de La Réunion, donc ils vont à La Réunion, et là, ils se trouvent confrontés à des gens qui, en réalité, ont un comportement vis-à-vis d'eux qui est socialement discriminant. Hein, voilà, considère que ce sont des pauvres, un peu perdus, et que le fait qu'ils soient musulmans ne suffit pas. Voilà, mais le représentant de la grande mosquée de La Réunion, là, qui pour le coup participe au CRCM, dont le nom m'échappe à l'instant, il travaille dans l'import-export, c'est une des grandes fortunes de La Réunion.
Est-ce que ça protège l'île de la radicalisation ou pas ?
Où il y a toujours ça protège. Alors, ça, c'est un autre phénomène, c'est qu'à La Réunion, il y a un consensus global, on n'a pas de départ. C'est une société, de ce point de vue-là, assez harmonieuse. Voilà, il y a des problèmes sociaux, très forts, de pauvreté, etc., mais qui ne se doublent pas de conflits religieux. Enfin, pas… voilà.
Et il y a un centre de formation des imams.
Ils ont leur centre de formation des imams. Voilà, mais je crois que vous connaissez…
À La Réunion.
Oui, à La Réunion. Ils ont fait un système global qui les protège complètement. Et du reste, ça fait partie…
Il y a tout,
mais ça fait partie aussi du fait qu'ils refusent, par exemple, quand des jeunes maghrébins arrivent. Parce que justement, ils ont peur d'être contaminés, entre guillemets, par la radicalisation ici. Donc, mais c'est un système global. Mais là, on voit bien le poids d'une élite sociale comment ça influe sur l'organisation globale. Ce qu'on n'a pas ici.
Et le serpent de mer des projets de formation, notamment l'université à Strasbourg, etc., qui a été envisagé, arrêté, planté, etc., c'est définitivement foutu, ça ?
Alors, c'est toujours sur le métier, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps, parce que effectivement, c'était le projet de Jean-Pierre Chevènement qui était de dire il y a une faculté catholique à Strasbourg, une faculté protestante, on peut émettre quelque chose qui ressemble à une faculté de théologie musulmane. Bon, on avait en réalité un problème qu'on avait du mal à régler, donc tout ça c'était théorique, c'était d'où viennent les formateurs, c'est un problème, mais on a un potentiel de théologie universitaire qui existe et qui pourrait être le creuset. Et le deuxième problème qu'on a, c'est le fait que l'université est en réalité assez hostile à ça, et une partie de la classe politique qui était hostile. Il faut se rappeler que le projet de Jean-Pierre Chevènement, il capote parce que Jospin n'est pas d'accord, et qu'il y a une hostilité qui est une hostilité marquée du sceau de la laïcité sur le thème « on ne peut pas faire ça ». Alors, et que la personnalité de Chevènement, aussi laïque qu'elle puisse apparaître dans l'opinion publique ou dans les courants de gauche à l'époque, n'a pas suffi à contrebalancer ça. Et c'est toujours le même problème. Il y a des enseignants qui, à Strasbourg, avaient monté un projet avec Messner, etc. Ils avaient tout monté, mais ça se heurte toujours à l'arbitrage politique qui est de dire… voilà, et qui, en plus, c'est moi maintenant… Encore que, puisqu'on a maintenant des choses assez extraordinaires, mais enfin, je rappelle, quand Chevènement dit on va faire quelque chose à Strasbourg, il y a une partie de la gauche qui lui dit mais ça serait redonner du dynamisme au régime concordataire. Donc, une sorte d'utilité. Voilà, bon, quand on voit ce que vient de faire la mairie de Strasbourg, les choses ont considérablement évolué dans l'appropriation du régime concordataire par certains courants. Parce que c'est quand même culotté, cette affaire de… Enfin, je dis ça, mais peut-être, comme je suis haut fonctionnaire, je vais essayer de rester réservé. Mais enfin, si vous voulez, 2,5 millions au Miligoruche, ça, alors là, par une mer verte, on m'aurait dit ça il y a 5 ans, j'aurais dit, écoute, tu déconnes un peu, là, ton sectarisme, t'emmènes trop loin, là.
Ça laisse un peu rêveur.
Ça laisse rêveur. Ça, c'est... Parce que le Midi-Corruche, c'est quand même... mais si vous voulez, pourquoi ils le font à Strasbourg ? Parce que la force du Midi-Corruche, c'est l'Allemagne. Hein, le siège international du Midi-Corruche, hein, il est en Allemagne. Voilà. Et pourquoi il est en Allemagne ? Parce que quand ils étaient confrontés aux militaires ou quand Erdogan a fait son séjour en prison, si vous voulez, ils ont compris très tôt que rien n'était acquis en Turquie et qu'ils étaient peut-être à la merci d'un coup d'État. Et donc, ils ont mis leur centre en Allemagne. Voilà. Et en Allemagne, ils ont un système de cotisation qui est comparable au système de cotisation des Kurdes dans la diaspora kurde. C'est-à-dire qu'en réalité, le choix existe. Enfin, il n'est pas toujours… il n'est pas toujours librement consenti. Et donc, c'est une puissance financière. Et c'est pour ça qu'ils ont des yeux gros. Voilà, 32 millions pour une mosquée, la plus grande cathédrale. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ils veulent annexer l'Alsace à l'Allemagne, d'une certaine manière, à travers une mosquée de 32 millions qui sera la plus grosse d'Europe. C'est ça qu'ils font. Alors, on peut dire que c'est un facteur une forme d'intégration à la germanité, mais enfin… Ça pose des tas de problèmes quand même. Hein. Et qu'il n'y ait pas eu de réflexion en disant… Parce qu'il n'y a pas que la mosquée qu'ils font. Hein. Ils font un centre de formation pour imams. Ouais. Et là, les centres de formation pour imams, là, les imams, ils vont, les formateurs, hein, ils vont venir soit de Turquie, soit d'Allemagne, et on va avoir un islam qui est ce que raconte Erdogan, c'est-à-dire les fonctionnaires portent le foulard. Aujourd'hui, en Turquie, eh bien, le fonctionnaire qui, à midi, ne s'arrête pas hein, pour aller faire la prière, eh bien, il n'a pas de promotion interne dans la fonction publique turque. Hein, c'est ça, la réalité. Hein, c'est une involution, quand même. Voilà. Et donc, c'est proprement stupéfiant. Il n'y a pas d'autre mot. Stupéfiant. Alors, l'idée de dire, bah oui, le ministère de l'Intérieur ne nous a pas prévenus. Enfin, pas prévenus, je veux dire, il y a des tas d'articles, de livres. Il y a même des anciens chefs du Bureau central des cultes qui en ont fait pour expliquer que c'était le Midi-Corruche.
Il y a même des formations qu'on peut suivre où on apprend tout ça.
Franchement, c'est la méconnaissance du fait religieux, ce qui est par ailleurs un des problèmes globaux. C'est-à-dire qu'il y a une prégnance et une montée du religieux et on a une méconnaissance du fait religieux. Alors, heureusement, il y a des gens qui veulent s'y former. Voilà. Mais c'est quand même un problème. Hein. C'est quand même un problème. Hein.
Vous pensez que c'est de la méconnaissance ou de l'opportunisme ?
Oh, quand même. L'opportunisme, si vous voulez, je pense que c'est quand même compliqué pour un courant qui, par ailleurs, sur des tas de questions de société, est complètement en décalage avec ce que peut penser un adhérent du Midi-Corruche. Je pense que... Non, enfin... Je suis même pas sûr qu'il puisse. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait un vote musulman comme ça, peut-être, hein, peut-être qu'ils peuvent espérer. Parce que si le Midi-Corruche dit il faut voter ça c'est sûr qu'ils arrivent.
C'est de la négligence et de l'ignorance.
Oui, parce que ce qui est vrai, c'est que par endroit, quand les Turcs, voilà, ils mettent les gens dans des cars, ils arrivent, etc. Voilà, ça vote.
Là, c'est de la négligence et de l'ignorance. C'est...
Je pense, oui. Je vois pas. Ça peut être un accord politique. Ça peut être pas possible.
Petite question. Il me semble qu'à Strasbourg, les imams sont des fonctionnaires de l'État comme pour les autres religions.
Non. Justement, le régime concordataire à Strasbourg peut s'appliquer aux musulmans, mais ne s'applique pas en ce qui concerne la prise en charge des salaires des trois confessions historiques. Ouais. Et alors, pourquoi ça ne s'applique pas? Justement parce qu'il y a un problème aussi de fiche de poste. C'est-à-dire que il y a des critères qui ont été mis en place de formation, de diplôme, etc., par les cultes eux-mêmes et avec une instance cultuelle qui est reconnue comme telle. Mais ils ne sont pas inclus dans le régime concordataire pour les salaires. Mais par contre, il y a des cimetières, des carrés confessionnels, parce que des collectivités locales ont été les premières en Alsace à le faire. Hein, c'était une bonne chose, mais au sens où en Alsace, on a encore des carrés au sens physique du terme. Et puis, la pratique qui est héritée aussi de, qui est plus ancienne, hein, qui date d'avant 1905, c'était effectivement entre 10 et 20% de l'investissement foncier qui était pris en, qui pouvait être pris en charge par les collectivités. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. C'est là où, voilà. Ce n'est pas une obligation.
Alors, au Luxembourg et en Belgique, ce sont des fonctionnaires de l'État.
Alors, en Belgique, il y a une sorte de concordat laïque. Voilà, c'est, on peut appeler ça comme ça, puisque il y a une reconnaissance des
C'est très récent.
Il y a une reconnaissance à la fois des courants religieux, mais des courants spirituels. C'est très particulier, la Belgique. Ouais. Mais alors, après, en Belgique, il y a la question de la Flandre et puis de...
La Wallonie.
La Wallonie, où les choses sont un peu différentes.
Merci.
Peut-être une dernière question, Didier, puisque tu es membre de la Fondation de l'Islam de France.
Qu'est-ce qu'elle est ? Ah oui.
De cette structure, qu'est-ce qu'elle est ?
Oui. Alors, je suis au conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France.
Voilà, le conseil d'orientation.
Oui, voilà. Qui est actuellement aussi bloqué parce que Ralem Bencher, c'est désespérant. Dominique de Villepin avait, et j'étais à l'époque chef du Grand Décule, avait dit, il faut monter une fondation pour l'islam de France qui permettra de financer le culte musulman, etc. Ça s'appelait la Fondation des œuvres de l'islam de France. Bon, j'avais rédigé les statuts, tout ça a été passé au Conseil d'État. Il y avait une dotation qui avait été apportée à l'époque par Dassault, ce qui maintenant était public, mais il ne fallait pas le dire à l'époque. Et puis, on avait rédigé des statuts et la gestion de cette fondation était dominée par des responsables musulmans. Voilà. Une fois qu'elle a été mise en place, elle n'a jamais fonctionné. Boubacar en a été le président et il l'a paralysée. Voilà. Pourquoi il l'a paralysée ? Parce que ça rentrait en contradiction avec le schéma de la Grande Mosquée de Paris, c'est-à-dire l'idée qu'il puisse y avoir un pôle qui puisse financer des activités. Ça amenuisait de fait la place de la Grande Mosquée. Donc il l'a paralysé. Quand Bernard Cazeneuve est arrivé ministre de l'Intérieur, il a dit il faut faire une fondation pour financer le culte musulman, essayer de le sortir de l'ornière des États, etc. La Grande Mosquée de Paris, je le rappelle, vit d'un budget qui est voté par l'Assemblée nationale algérienne. Hein. Et donc, on a fait la Fondation de l'Islam de France. Ça a été très long à accoucher parce que pendant tout un temps, Bernard Cazeneuve a dit il faudrait qu'on trouve un musulman qui soit consensuel, enfin qui puisse prendre ça et puis qu'il y ait un peu de surface, etc. Bon, dès qu'un nom était présenté, on avait naturellement une opposition de tous les autres. Et donc, à un moment donné, il a dit il faut quand même qu'on trouve quelqu'un parce qu'il faut quand même que j'ai une réussite politique dans cette affaire dès lors que je l'ai mis en avant. Et à ce moment-là, une réunion. Et puis, il y a un conseiller qui dit pourquoi on ne prendrait pas Chevènement ? Bon, Chevènement, apprécié dans le monde arabe, etc. Voilà, laïque, une figure quasi morale. Enfin, bon, voilà. Et donc, il devient président. Voilà. Et puis, Chevènement, quand même, est plutôt jeune. Et donc, à un moment donné, il a dit « Mais moi, je ne peux plus faire, j'ai d'autres activités, j'ai ma propre fondation Respublica qui produit d'excellents travaux. » Enfin, je dis ça en parenthèse. Il arrête et il passe en cours de mandat le relais à Ralem Bencher, que tout le monde connaît, un intellectuel musulman, responsable de l'émission… sur France Culture, j'allais dire c'est tout dire, hein, etc. Et donc là, aussi sec, que se passe-t-il ? Eh bien, on est dans la période de renouvellement du conseil d'administration de la Fondation puisqu'il a pris le mandat de chevènement en cours de route. Et à ce moment-là, eh bien, il y a des autres qui disent bah non, nous, on ne veut plus de Ralem Bencher, et ils avancent un autre candidat. Et là, l'autorité politique, elle est prise devant la chose suivante, c'est que elle se trouve dans une situation où il va falloir choisir entre deux Algériens, puisque c'est Sadek Belloussif, candidat de la Grande Mosquée de Paris, contre Ralem Bencher, fils d'un ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, et parce qu'il est le fils de l'ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, eh bien, n'est pas apprécié par l'actuel recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je résume. Tout ça n'a rien d'idéologique. Voilà. Et donc, le conseil d'administration a été repoussé. Et donc, on va voir, moi, je ne sais pas quel va être l'arbitrage final du ministre de l'Intérieur. Je constate que beaucoup de gens vont à la Grande Mosquée de Paris, c'est peut-être un signe. En 3 mois, on a eu l'ancien président de la République, l'actuel ministre de l'Intérieur et l'actuel président de la République. En un laps de temps aussi court, je n'avais jamais vu. Mais c'est peut-être parce que je suis trop jeune. Hein, voilà. Donc voilà. Donc c'est peut-être un signe. Mais je pense, moi, enfin, que c'est sans doute un peu imprudent que tout soit entre les mains de la Grande Mosquée de Paris, si j'ose dire. Par ailleurs, bien évidemment, Moussaoui soutient Ralem Bencher parce qu'il ne veut pas du candidat de la Grande Mosquée de Paris. Or, il est membre de droit du conseil d'administration de la Fondation, puisque le président du CFCMM est membre de droit. Il y a un autre musulman qui est membre du conseil d'administration de la Fondation, qui est le Kamel Kaptan de la Grande Mosquée de Lyon, qui est historiquement en opposition à la Grande Mosquée de Paris. Et donc, on pourrait arriver à une situation où c'est le candidat de la GMP qui est choisi par l'autorité politique, eh bien, qu'il soit choisi alors que les deux musulmans présents au conseil d'administration auront voté contre. Là, ce sera le pompon. Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis fonctionnaire, je ne fais pas de politique, donc ça me dépasse. Hein.
À suivre.
À suivre, oui. C'est tragique. Tragique. Sur le fond, qu'est-ce qu'elle pense, la population ? Que tout ça, ça n'avance jamais, c'est des éternelles querelles, personne n'y comprend rien, et les problèmes de fond ne sont pas résolus, et quand on regarde la télé, on est quand même inquiet. Il voilà, y a le Covid, et puis quand il n'y a pas le Covid, il y a voilà, ce qui se passe dans un certain nombre de pays, etc. Donc voilà.
Pardonnez-moi une petite question, une dernière vraiment rapide pour faire court. En gros, les dispositions qui vont être votées prochainement ne changeront rien à l'affaire. Enfin, c'est un triste bilan que vous nous dressez. Je sens déprimé.
Alors,
hein.
Alors attendez. Alors rien à l'affaire. Il y a quand même des dispositions positives. Voilà. Je pense que les dispositions sur la transparence financière sont absolument positives.
Voilà. La formation,
la transparence financière, c'est-à-dire l'obligation. Oui. Voilà, ça, c'est absolument positif, parce que un des problèmes de la bureaucratie musulmane des mosquées, c'est la non-transparence des fonds. Voilà. Et là, il faut enfin faire ce qu'on n'a pas fait. Et en réalité, on est obligé de passer par la loi parce qu'administrativement, on ne l'a pas fait. Genre, une association de loi 1901, elle peut avoir des contrôles fiscaux. Hein, je veux dire, mais ça demande du temps, etc. On l'a fait sur les témoins de Jéhovah à grande échelle. On ne l'a jamais fait sur les responsables des mosquées parce qu'il y a l'idée que peut-être ça pouvait apparaître comme discriminant, etc. Et donc là, il y a une transparence financière qui, en réalité, dite pour tout le monde. Voilà, mais on voit que le problème, il est là. Mais je pense que c'est une autre chose. La deuxième chose que je vois et qui est importante, ce sont les mesures qui vont être juridiquement complexes à mettre en place, mais qui sont symboliquement importantes. La question de l'égalité dans l'héritage, elle est socialement importante parce que on a ici des générations des gens qui ont des parents qui ont acheté ou qui sont héritiers de biens, enfin de leurs grands-parents, enfin je veux dire voilà, et l'inégalité de traitement dans l'héritage entre les garçons et les filles, ça a un impact social, parce que, bien évidemment, ils n'auront pas la même chose, mais ça a un impact sociétal. C'est-à-dire que c'est la première fois, à mon sens, qu'on essaye, à partir d'un texte de loi, de contrer ce qu'on conteste dans le droit civil religieux d'un autre État, mais qui a un rapport avec une partie de notre population. J'ajoute que c'était une vieille revendication féministe qui s'interrogeait sur le fait de pourquoi on n'était pas beaucoup plus allant sur le droit civil de certains pays qui avaient des effets ici. On l'a été à un moment donné sur la polygamie, et il y a encore là une petite disposition, mais qui est une queue de comète, puisque la polygamie était interdite, mais en réalité, on voit bien que la pratique administrative, enfin, si j'ai bien compris, parce que dans l'étude d'impact, c'est qu'il pouvait y avoir la reconnaissance de fait de la polygamie à travers les pensions de reversion, hein, qui étaient fractionnées. Ouais, ouais. Bon. Et donc, je pense que ça, c'est pas négligeable. Voilà. Ce sont des signes pas négligeables. Je constate que c'est pas ce qui apparaît le plus dans les débats. Le plus dans les débats, c'est de savoir si la loi va percuter ou pas, en réalité, les diocésaines. Parce que l'angoisse de l'Église catholique, c'est le problème des diocésaines. Les diocésaines, c'est un problème très particulier parce que en 1905, ce qu'on appelle une association cultuelle, c'est d'abord une association loi 1901 qui a comme unique objet de faire du cultuel. Ce que fait la loi séparative, c'est qu'elle revient sur la modification qui a eu lieu en 1907, parce que comme en 1905, l'Église catholique ne veut pas rentrer dans le cadre de la loi, Aristide Briand et les autres ne veulent pas que l'Église se mette en situation de martyr, et donc en 1907, on vote une modification de la loi de 1905 qui dit on peut faire de l'activité culturelle soit avec une association loi 1901, soit avec une 1905, soit sans association. Bon, la loi séparatisme, en gros, est en train de dire ben non, il faudra à chaque fois une association. Donc ça, c'est une remise en cause pour essayer de rentrer dans le cadre. C'est la remise en cause qu'utilisent non pas des courants adossés à l'Église catholique, mais des courants plutôt insoumis par rapport à elle, pour dire ben, il y a une remise en cause de la liberté religieuse. Mais bon, mais le problème de l'Église, c'est pas ça. C'est que en 1924, dans le cadre d'un accord diplomatique entre la France et le Vatican, après une consultation du Conseil d'État, on arrive à cette conclusion qui me paraît logique sur le plan religieux, sur le plan juridique, et le religieux du reste, tel que le voulait Aristide Briand, c'est qu'on dit une diocésaine est une cultuelle de fait. Bon. Mais la particularité de la diocésaine, contrairement aux autres associations cultuelles et naturellement aux associations de la loi 1901, mais comme la 1901 est à la base de la cultuelle, c'est que le président de la diocésaine, c'est forcément l'évêque. Et que l'évêque, il n'est pas choisi par les adhérents de la diocésaine. Voilà. Et dès lors qu'on réaffirme des obligations, je dirais, en termes d'organisation associative, eh bien, l'Église, elle dit, mais attention, c'est ça qu'elle pense. Alors, à tort ou à raison, ça va être une discussion de juriste, vous remettez en cause le compromis de 1924, et donc vous remettez en cause la diocésaine. C'est ça un peu le débat qui est avec de Moulin-Beaufort. Hein, c'est ça sa crainte. Et donc il dit, eh bien voilà, vous essayez de régler l'islam, et du coup, c'est un contre-coup sur nous. Voilà. Mais sur l'ensemble, je pense que ça progresse, je pense que c'est plutôt bien. Je pense que c'est plutôt bien. Et comme la loi de 2004 a été bien, rappelez-vous, en 2004, un certain nombre de gens ont dit mais la loi de 2004, il y a des filles qui ne vont plus aller à l'école, etc. Arrêtez, on a réglé le problème. Hein, et on n'a pas eu de déscolarisation massive. Hein, et l'enquête de l'INSEE Trajectoire à l'origine, elle souligne ce qu'on voyait à l'époque, mais qu'on ne comprenait pas vraiment, mais elle le souligne à travers des critères qui ne sont pas des critères religieux. À l'époque, la majorité des incidents autour du port du foulard à l'école, c'était des jeunes filles turques. Je ne parle pas des sœurs Lévy à Aubervilliers, qui étaient un problème particulier, hein, où elles avaient décidé d'embêter leur père. Hein, voilà. Mais c'était essentiellement des filles turques et en Alsace. L'étude Trajectoire et Origine fait apparaître que les seules filles qui ont des résultats scolaires inférieurs aux garçons, ce sont les filles d'origine turque. Voilà. Et je pense que c'est lié un comportement sociétal global, hein, et dont le religieux est un des aspects. Et là, on a objectivé le problème, pas simplement à partir du port du foulard, mais objectivé au sens où on a des données. Voilà. Mais je pense que la loi séparatiste est quand même une avancée, et en particulier une avancée symbolique, mais la question de l'héritage est très peu discutée. Voilà, on discute d'éléments très techniques, pas simples à maîtriser, mais à mon avis, pas de ce qu'il y a de plus important sur le plan symbolique. Et en plus, en faisant ça, on arrange un certain nombre de cultes, et en particulier le culte musulman. Parce que les responsables musulmans, vous ne les entendez jamais sur la question de l'héritage. Bah, pourtant, ils sont directement concernés, même familialement. Pour les principaux qui sont en avant, je veux dire, vous n'entendez pas. Et là, vous avez. Ils ne vous disent pas, oui, c'est formidable, ça va aider dans nos communautés religieuses à faire comprendre que les femmes et les hommes, c'est pareil, ça doit avoir les mêmes droits. Aucun.
Zéro. C'est une problématique de formation.
Parce qu'en disant ça, ça veut dire qu'ils portent une critique sur le droit civil des pays dans lesquels, d'une certaine manière, ils sont soit financièrement, soit organiquement dépendants. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne le disent pas. Voilà. Et que par contre, la réaction du recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est aujourd'hui sur l'homosexualité. Je dis ça parce que ça m'a énervé, puisque j'ai vu ça tout à l'heure avant la réunion, mais je rappelle que les associations turques qui n'ont pas voté la charte, un de leurs arguments, c'est sur l'homosexualité. C'est quand même pas rien comme affaire. Hein, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, ah ben oui, vous voulez nous faire dire que l'homophobie, c'est pas bien, mais dans le Coran, il y a un problème avec l'homosexualité. Voilà. Et là, c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que la question, à travers la loi du symbolique, ne me semble pas négligeable.
Merci beaucoup, Didier. Merci infiniment de partager ta riche expérience.
Merci à vous.
Il y en aura plein de questions encore. Hein.
Ah oui, mais j'ai bien compris. Enfin, bon. J'ai bien compris. Ouais. Il va falloir aller dîner,
c'est ça. Merci beaucoup.
Allez, au revoir.
À bientôt, Didier. Un grand merci à toi.
Merci, merci beaucoup.
Merci.
Merci, c'était passionnant. Merci.
Merci, bonsoir.